Hey, bonjour. On va mettre un peu de sérieux là-dedans, là. Non, hein? C'est correct. On a le droit de s'amuser. Bonjour, là. Je sais pas par où commencer. À part la tradition, on va continuer ce matin. On continue. Trouvez-vous ça plate de parler de la souffrance au beau milieu de l'été? Non, hein? Parce que. Ben, c'est ça, on souffre pas plus. La souffrance, il y en a autant l'été que pendant l'hiver, malgré que des fois que l'hiver en impose une commune à tout le monde, le froid. Mais c'est pas grave, la souffrance n'a pas de repos. Ça continue. Tous les jours, on a à apprendre à dealer avec, à vivre avec. Et puis, ça poursuit juste ce qu'on a entendu tantôt. L'annonce que Jean a fait là, pour la fille de Chantal, j'imagine que ça c'est un choc, c'est beaucoup d'inquiétudes, c'est toutes sortes de questions qui sont soulevées, toutes sortes de. J'imagine que le temps qu'ils sont en train de traverser n'est pas un temps de grande joie et de réjouissance à travers tout ça, surtout en bas âge comme ça. La souffrance n'a pas de relâche. Et puis, c'est pour ça qu'on continue pendant l'été aussi. On sait que le taux d'absence est plus élevé à l'Église, mais c'est pas grave. On met les prédications maintenant sur Internet, donc les gens peuvent continuer à suivre et puis ne pas perdre le fil. Donc, dans les derniers mois, on a pris le temps de regarder la souffrance de loin, hein, d'une façon plus philosophique, on pourrait dire. Des fois, dans l'Église, on n'aime pas là, ce mot-là, la philosophie, mais c'est quand même ça pareil. On le regarde dans son concept, dans son ensemble, on le regarde de loin, d'une façon probablement plus froide, hein. On n'a pas été dans le cœur, si on peut dire, de la souffrance et de comment la traverser, comment la vivre, comment passer au travers. Et dans les prochaines semaines, c'est sous cet angle-là qu'on va s'attarder davantage. Ça sera pas parfait, mais on va quand même prendre le temps de se rapprocher de la réalité, de comment traverser, comment vivre tout ça, cette souffrance-là. On a regardé des grands principes qui vont nous aider qui sont essentiels, si on peut dire, quand on est dans la souffrance. On a regardé que c'est toujours mieux de les savoir avant que de les apprendre pendant qu'on est dans la souffrance. C'est pour ça qu'on a pris le temps vraiment de les approfondir, de les regarder. Et un de ces grands principes-là qu'on a regardé, qu'on a creusé sous différents angles, c'est la souveraineté de Dieu. Et c'est souvent ce que la souffrance vient remettre en doute, premièrement, la souveraineté de Dieu. Comment un Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous, peut permettre une telle chose dans ma vie? Hein? On a regardé ça sous différents angles. On a vu que Dieu est souverain. Et ce n'est pas la souffrance qui est souveraine sur Dieu, c'est Dieu qui est souverain sur la souffrance. Et c'est rassurant de savoir que Dieu qui dit être bon et bienveillant, a le contrôle sur la souffrance. Imaginez ce que ça serait s'il ne l'aurait pas. On voit dans la parole que Dieu, oui, il a permis que la souffrance, l'épreuve vienne, mais il a aussi prévu un temps de fin, un temps d'arrêt, une limite à la souffrance. Et c'est sa souveraineté qui le permet. De savoir ça quand on est dans la souffrance, ben, ça peut apporter un baume sur chacun de nos cœurs. L'autre chose qu'on a vu qui est importante aussi, c'est que l'ennemi est le mal, est la souffrance. L'ennemi de Dieu, celui que Dieu veut éradiquer, c'est le mal, c'est la souffrance. Dieu, il n'est pas contre nous. Il est de notre bord. On voudrait éradiquer la souffrance puis le mal, nous aussi. Et on le voit tous les jours, il y a des organismes, il y a des groupes, il y a toutes sortes de mobilisations dans le but de faire diminuer la souffrance, d'éliminer le mal et les injustices. C'est inné dans la vie, dans le cœur de l'être humain. Et on est tous d'accord là-dessus, une telle chose ne devrait pas exister. Ben, Dieu est d'accord avec ça. Dieu est d'accord avec ça. Mais sa solution est beaucoup plus poussée, beaucoup plus complète et beaucoup plus satisfaisante, au final, que n'importe laquelle des solutions que les êtres humains peuvent apporter ou proposer ou essayer de mettre en place. Et quand on regarde à l'origine du mal, aux sources du mal, on se rend compte que l'être humain ne peut pas faire grand-chose en réalité pour amener à bien cette mission-là, d'éradiquer le mal par lui-même, à cause de la source et de sa nature. Le mal est beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que juste des événements qui se produisent autour de nous. Le mal, la source du mal est imbriqué, est imprégné tout simplement dans la création, dans la nature qui nous entoure. La source du mal qui est aléatoire d'une certaine façon. Les conséquences de la chute. Après ça, il y a le mal moral qui est imprégné en dedans de nous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Nous sommes source de souffrance, autant pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et le jour où on va voir la fin de ça, ben, c'est le jour où on va être au ciel avec le Seigneur. On ne peut pas se débarrasser par nous-mêmes de cette nature-là. Puis la troisième, ben, c'est le mal spirituel. Parce que oui, l'ennemi est à l'œuvre et il dirige et son but, c'est réellement de tout détruire l'œuvre de Dieu. Tout. Et de s'y opposer à tout. Donc oui, le mal est source de souffrance dans le monde. Et c'est une autre forme de souffrance sous laquelle nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas réellement rien faire. On n'a pas d'armes à nous laisser à nous-mêmes. On ne peut pas rien faire. On n'a pas de pouvoir sur le monde spirituel. Nous-mêmes. Le seul qui en a, c'est Jésus-Christ. Donc, on a regardé à toutes ces choses-là vraiment dans le but de remettre les choses en place pour, quand on est au milieu de cette souffrance-là, de quelle façon tout ça va venir changer la façon dont on va la vivre, la traverser. Une des métaphores qu'on retrouve dans les Écritures concernant la souffrance, c'est celle de la traversée. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent dans la parole de Dieu. On le voit à plein d'endroits, Lamentations 3:2. Il m'a mené, il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. Il m'a fait marcher. Il y a l'idée de marcher, de traverser. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal. C'est version sommaire. Vous reconnaissez le psaume 23, mais on est habitué de l'entendre dans la version Louis II. Il y a d'autres versions qui sont très intéressantes aussi. Donc, il y a l'élément de traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres. Ésaïe 50, verset 10. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Et les Écritures parlent de traverser des situations périlleuses, difficiles, susceptibles d'être fatales, parfois de marcher dans les ténèbres. Parfois, les Écritures vont aussi utiliser la métaphore de traverser les eaux profondes. Si on va dans Psaume 69, verset 2, verset 15, Psaume 88, 17, dans Job 22, 11 aussi, Exode 15, 19, c'est toutes des versets qui font référence à la traversée des eaux profondes. Donc, ces métaphores soulèvent une vérité. La nécessité de traverser les souffrances et inclut une notion de progrès dans la souffrance. Quand on marche, quand on traverse, il y a l'élément d'être dedans l'environnement, mais aussi d'avancer parce que on va traverser comme on traverse une rivière. La rivière a un début et la rivière a une fin. Mais il y a la notion de marcher dedans, de progression. Et Quand on regarde, c'est pas si vous allez traverser. Non, c'est quand vous allez traverser. Donc, il y a la nécessité de traverser ces moments difficiles-là. Et l'élément d'y progresser. Je trouve ça intéressant de le soulever parce que la conception d'aujourd'hui, OK, de l'Occident moderne par rapport à la souffrance, n'est pas celle de traverser, mais au contraire. La souffrance est perçue comme une tempête dont on doit se protéger ou qu'il faut éviter jusqu'à ce qu'elle ait disparu. L'approche, la façon dont on est enseigné dans notre culture de faire face à la souffrance, pour la grande majorité, c'est l'élément de « je dois me protéger de la souffrance ». Il faut que j'évite la souffrance parce que ce que je veux pour me sentir bien, c'est souffrir le moins possible. Qui aime souffrir? Je suis content, personne ne lève la main. Il n'y a pas personne qui aime souffrir. Il n'y a pas personne qui aime souffrir. C'est pas étonnant que, de notre propre nature, on essaye de faire tout en notre pouvoir pour éviter la souffrance, pour se protéger de la souffrance, de se cacher et puis d'attendre qu'elle aille passer, qu'elle disparaisse. Ceci amène la fuite face à l'adversité ou de la souffrance. Notre première réaction, c'est de fuir. Mais pourtant, ce qu'on voit dans les Écritures, il y a un encouragement de traverser la souffrance. Dieu nous dit pas « fuyez la souffrance à tout prix ». C'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire « vous allez traverser la souffrance ». Traverser la souffrance. Ça fait partie de la vie, vous pouvez pas l'éviter, donc affrontez-la avec courage et avec foi. Et puis, toute cette fuite-là, quand j'ai lu ça, je me suis comme analysé, j'aime beaucoup ça analyser, et puis je me rends compte que, wow, sans même s'en rendre compte, j'ai les deux pieds dans la notion de la culture d'aujourd'hui. D'éviter les occasions, d'éviter les activités qui pourraient m'apporter de la souffrance. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Des fois, ça peut être de repousser une conversation que je le sais qui va être désagréable parce que ça va m'apporter de la souffrance, parce que c'est peut-être un sujet sensible, c'est peut-être un sujet difficile, peut-être que ce que j'ai à dire va apporter de la souffrance dans la vie d'un autre. Ou peut-être que va n'apporter dans la mienne parce que c'est moi qui est en tort, puis je vais avoir à m'humilier, je vais avoir à demander pardon, puis ça peut être une forme de souffrance. J'aime pas ça, être humilié, puis j'aime pas ça. Pas tout le monde, il y a des gens qui sont bien à l'aise avec ça, mais pour d'autres, ça peut être vu comme une source de souffrance. Ça peut être simplement juste aussi l'exercice physique. Si vous me regardez, c'est clair, je ne m'entraîne pas, là. Mais pourquoi? Ben, j'aime pas la souffrance. J'aime pas... Ça m'enlève ma quiétude intérieure. Je demandais à mon garçon, c'est ça, j'ai dit des fois, quand il arrive se battre, puis il me brasse, j'ai dit, laisse-moi tranquille, tu brises ma quiétude. Comme un peu running gag entre nous autres. Mais ça témoigne de quelque chose pareil. Mon désir d'éviter la souffrance. Et ça prend... Je vous explique ça pour que vous puissiez simplement vous projeter là-dedans puis vous dire, moi, de quelle façon je vis ça, cet évitement-là de la souffrance? Est-ce que quand j'ai... Il y en a peut-être qui ont plus de courage que d'autres, puis je pense que c'est le fruit de l'expérience d'en avoir traversé des encore et encore dans notre vie, puis je pense que d'une fois à l'autre, c'est plus facile, puis notre confiance, notre foi en Seigneur augmente, puis on devient meilleur, on devient plus courageux, je pense, dans ces situations-là. Donc, gloire à Dieu si c'est pas votre cas, mais d'une façon ou d'une autre, à tous les niveaux où est-ce qu'on peut être par rapport à ça, on peut être tenté de vivre cet évitement-là au lieu de traverser ces souffrances-là avec courage, comme le Seigneur nous le demande. Ce que la parole nous présente, c'est la nécessité de traverser les moments difficiles et non de les éviter. Et quand on évite ces moments de souffrance-là aussi, je pense qu'on retarde les bénédictions. les bénédictions de quand on a traversé la rivière, on est heureux de ce qu'on a traversé, heureux de ce qu'on a appris, heureux aussi au final de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a découvert dans la grande majorité des cas. Il y a une différence entre ne pas éviter la souffrance et courir vers la souffrance. Je veux mettre le point aussi ici. C'est quand même important. Tu sais, quand il y a quelque chose qui doit être fait, je sais que ça va être difficile, je le fais. OK? Je l'évite pas. Mais il y a une différence entre provoquer la souffrance, provoquer les situations. OK? Ça peut être un problème aussi. Il y a des gens qui font ça. Quand ça va trop bien, il faut créer des problèmes. J'en connais. Quand ça va trop bien dans leur vie, il faut qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'ils provoquent quelque chose qui amène de la souffrance aux autres et à eux, parce que ça peut. Les émotions sont une drogue. Les émotions, c'est addictif. Et on peut être accro à une certaine émotion plus qu'à une autre. Et étrangement, il y en a qui le sont à la colère. Il y en a qui le sont à la chicane. Il y en a qui le sont quand c'est trop tranquille, ils sont pas bien. OK? C'est possible. Ça arrive. Mais l'idée, c'est que le Seigneur ne nous demande pas d'être masochistes. OK? Il nous demande d'être courageux. Il ne nous demande pas d'être sadiques puis de chercher à faire souffrir les autres pour leur sanctification. C'est pas ça l'idée. OK? Il nous demande d'être courageux, responsable et vrai avec nous-mêmes et les autres. Quand il y a quelque chose, même si c'est difficile, Dieu nous demande de le faire avec courage et d'aller et de ne pas rester dans la passivité et dans l'évitement comme la culture nous enseigne de le faire. Donc, Seigneur, ne pas tarder de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur nous parle de la nécessité de traverser les moments difficiles. On va lire ensemble Ésaïe 43, verset 2. 2, 3, puis on va sauter à 5. Ici, on passe de 4 à 5. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. L'idée ici de fleuve, de feu, puis les eaux font vraiment référence à des tourments profonds, à des souffrances profondes dans l'image qui est ici. Donc, c'est quand tu passeras par les eaux. C'est l'Éternel qui parle à son peuple. Bien, ça dit, je vais être avec toi. Tu vas traverser, ils ne te submergeront pas. Donc, l'idée de traverser les épreuves, ces épreuves-là ne te submergeront pas. Marcher dans le feu, bien, le feu ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Quand même intéressant, cette notion-là ici, OK? Dans les grandes adversités, quand ils vont venir, Dieu promet de nous accompagner en marchant à nos côtés. Donc, la première notion qu'on doit comprendre quand on traverse ces moments difficiles-là, quand on est dans la souffrance, c'est celle de la présence de Dieu. Et je sais que ce n'est pas un nouveau concept pour nous ce matin. Dieu est présent. La présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu fait toute la différence. Et de marcher avec Dieu fait toute la différence. Lui marche avec nous. OK? Lui, il est là. Et à cause de sa présence, qu'est-ce que ça va apporter? C'est que les épreuves, les fleuves, le feu, ne nous submergeront pas. Ils ne te feront pas de mal. Les flammes ne te brûleront pas. Et les notions de feu, qui est souvent utilisée pour faire référence aux tourments dans la parole, aux épreuves, bien, le feu, ce qui arrive, c'est que le feu, normalement, ça détruit, ça consume, autant l'extérieur et l'intérieur. Donc, les épreuves qui sont du feu peuvent consumer, peuvent détruire. En avez-vous vu déjà des personnes qui ont été détruites par des épreuves, par des événements dans leur vie? C'est possible. OK? C'est possible. Il y a vraiment deux options. Soit que de nos épreuves, on ressort plus fort, ou soit qu'on ressort complètement détruit, consumé par le feu, submergé par les eaux qui nous ont envahis. Ce qui fait la différence, c'est la présence de l'Éternel dans chacune de nos vies. Quand on regarde que Ésaïe il va jusqu'à dire que le feu ne nous brûlera pas, il semblerait qu'en se trouvant au milieu de la chaleur, elle ne pénètre pas dans la personne. Autrement dit, elle ne contaminera pas son âme, n'endurcira pas son cœur et ne la mènera pas au désespoir. La souffrance, l'adversité qu'on traverse avec le Seigneur, elle ne te détruira pas. Comprenez? Elle ne te détruira pas. Et c'est souvent une de nos craintes profondes quand on est dans l'adversité. Peu importe la source de la souffrance, parce que la souffrance peut venir de différents angles, on peut être notre propre source de souffrance, quelqu'un d'autre peut être la source de souffrance. Les souffrances peuvent avoir des sources mystérieuses aussi dans nos vies. Peu importe la source de la souffrance, avec l'Éternel, cette souffrance-là ne te consumera pas, ne te détruira pas. Et c'est la crainte qu'on a quand on traverse les épreuves. Comment je vais surmonter cette épreuve-là? Comment je vais passer au travers? S'il arrive telle chose, bien là, c'est la catastrophe, c'est la fin. Et on a l'impression que ces souffrances-là, ces adversités-là vont nous détruire, vont nous anéantir. Quand on est avec l'Éternel ou quand l'Éternel est avec nous, ce qu'il nous promet, c'est que ça ne nous détruira pas parce qu'il marche avec nous. Quand on regarde dans 1 Pierre, et on l'a étudié il y a quelques mois, vraiment intéressant, et c'est un livre qui parle énormément de la souffrance. Et c'est un livre qui se veut un encouragement pour des chrétiens qui vivent beaucoup, beaucoup de souffrances. Pas nécessairement encore des souffrances physiques, mais beaucoup de souffrances sociales. Tout est remis en question, toute leur vie sociale, leur inclusion dans la société est remis en question par le fait qu'ils sont maintenant associés à Jésus-Christ. Et tout est remis en péril dans leur vie, leur source d'emploi, leur famille, leurs amis, leurs proches. Tout est remis en question et ça a amené jusqu'à des souffrances physiques, inévitablement, à l'époque où ça a été écrit. Mais 1 Pierre se veut un encouragement pour les chrétiens dans l'adversité. Et la façon dont Pierre nous présente ça, dans 1 Pierre 1,6, c'est « Voilà ce qui fait votre joie ». Et ce qui fait notre joie, qui était juste avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le fait que notre héritage est au ciel et il est protégé, il est sécur par Dieu lui-même. Il n'y a rien qui peut venir détruire notre héritage qu'on est en train de se construire pour l'éternité. Et c'est ça qui fait notre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-elle pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour. Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce n'est pas la première fois qu'on lit ce passage-là. Mais ici, il faut qu'on soit attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Et dans le mot épreuve, il y a l'élément de éprouver. Et éprouver, ce que ça veut dire, c'est, je retrouve dans mes notes, le mot grec utilisé pour épreuve signifie essayer d'apprendre la nature ou le caractère de quelque chose, un test. OK? Signifie essayer d'apprendre la nature ou le caractère de quelque chose. C'est un test. C'est de révéler la vraie nature. C'est ça, une épreuve. L'adversité, les moments difficiles, les souffrances sont des tests, sont des épreuves dans le but d'apprendre la vérité sur notre nature, sur notre caractère. C'est un test. Et il fait référence à l'or qui est éprouvé par le feu dans le creuset. Le creuset peut détruire quelque chose. Et c'est son intention. Le but du creuset, de le mettre sous le feu, c'est de mettre à l'épreuve son contenant, son contenu, dans le but de détruire ce qui doit être détruit. OK? Son but, c'est de détruire l'or qui est dedans. C'est vraiment ça, son but. Mais est-ce qu'il y parvient? Qu'est-ce qui se produit à la place? Question facile, là. C'est les impuretés qui sont détruites en bout de ligne. Oui, Richard.
Donc, en métallurgie, quand tu fais fondre le métal, c'est pour faire remonter la surface les impuretés. Fait que tu enlèves
la couche du dessus.
La couche du dessus pour garder justement.
Parce qu'on sépare l'or de l'impureté. Fait que ça fait remonter en surface, puis là, le fondeur, il vient les enlever tout simplement. Puis ceux qui peuvent être détruits par le feu font simplement brûler, parce qu'ils résistent pas, se retrouvant à la surface, les gaz et toutes ces choses-là. Donc, c'est pas un concept nouveau pour chacun de nous, je suis convaincu. Cet élément-là de devenir de plus en plus pur, de plus en plus... pur pour le Seigneur, mais peu importe la souffrance et sa provenance, elles sont toujours une opportunité de purification. Toujours. Avec l'Éternel, on peut regarder les moments difficiles qui sont devant nous ou qui nous tombent dessus comme une opportunité de purification. Oui, Brian.
C'est intéressant, je viens de remarquer que ce qui est éprouvé, c'est la foi.
Oui. Non. C'est pas nécessairement de péché, c'est pas une punition. C'est pas dans le but de faire sortir le péché de notre vie. Non, c'est.
Souvent, on a cette question-là, moi-même incluse, là. Ah, Dieu, il me fait souffrir parce que j'ai encore trop d'orgueil, trop de péché. Là. Mais c'est pas ça la notion ici.
Non.
La notion ici, c'est de purifier la foi.
Et c'est pour ça que c'est important de ne jamais oublier de vue l'Évangile. Parce que Jésus a déjà subi la colère de Dieu, a déjà tout subi la punition pour nos péchés, a déjà tout reçu ça sur lui. Il a déjà payé pour tout ça. Donc, ça, on met ça de côté, un peu comme tu viens de dire. Quand la purification, on a l'impression c'est que c'est vraiment ça, c'est des punitions pour nos péchés ou des choses comme ça. Mais c'est notre foi qui est éprouvée, c'est notre confiance en Dieu qui est éprouvée. Est-ce qu'on s'appuie réellement sur Dieu ou non? Et le Seigneur veut faire sortir de notre vie tous nos appuis qui ne sont pas lui. Oui, Jean-Claude.
C'est intéressant la réflexion de notre frère parce que ça rejoint le verset dans Ésaïe que tu as apporté. l'action divine va être efficace dans la mesure de foi que nous allons saisir de ce qu'il nous donne pour les traverser. C'est exactement ce que notre frère vient de dire.
C'est dans la mesure où on s'approprie par la foi la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Oui? OK? Daniel 3, oui. Ah oui. Puis, il y a trois semaines, quand le dernier dimanche où j'ai prêché, on a parlé de cette histoire-là. En théorie, je devais en parler à matin, mais avec tout ce que vous m'avez emmené la dernière fois, je n'ai pas eu le choix d'en parler. Fait que je l'ai sauté pour ce matin, mais c'est un exemple réellement concret de traverser le feu et que la présence de Dieu, de Jésus, de l'ange de l'Éternel, vient faire toute la différence. Et avant qu'il les jette dans le feu, puis ça fait partie de ce qu'on va voir aussi ce matin, avant qu'il les jette dans le feu, mais la réponse qu'il leur a donnée, c'est « L'Éternel va nous sauver de toi. » Mais s'il ne le fait pas, c'est pas grave, on est prêt à mourir pour le Dieu pareil. Est-ce qu'il y a une incohérence entre les deux? Absolument pas. Ils disent « Nous, on a foi, on sait que Dieu est capable. » Mais est-ce qu'on connaît le plan de Dieu d'une façon parfaite et est-ce qu'il va le faire? On n'en a aucune idée. Mais en réalité, c'est pas grave. Je le fais parce qu'il est Dieu. Et je le fais pas parce que je veux la vie sauve. Je prends pas position devant toi parce que je veux que Dieu me sauve. La finale, ça me dérange pas. Elle m'appartient pas. Est-ce que je connais le plan de Dieu? Je n'ai pas cette prétention-là. Mais je sais, par exemple, qui il est. Et parce que je sais qui il est, j'obéis. Point final. Ça a été ça, leur attitude. Puis Dieu les a sauvés. Ça a été la décision qu'il a prise. Quel exemple concret et tangible pour chacun de nous. Ces épreuves-là qu'on traverse peuvent être des opportunités pour nous de grandir. Des opportunités de grandir dans notre foi, dans notre conception concrète de qui est Dieu. De grandir puis d'acquérir une foi qui est éprouvée. Il y a une différence entre une foi qui est éprouvée et une foi qui n'est pas éprouvée. Une foi qui n'est pas éprouvée demeure beaucoup plus juste un concept intellectuel à laquelle on adhère. C'est une foi intellectuelle. Mais une foi qui a été éprouvée, c'est plus juste intellectuel, c'est concret, c'est fiable, c'est un appui fort, vivant. Et c'est cette foi-là, éprouvée, OK, a une valeur beaucoup plus précieuse. Parce qu'elle a été purifiée, elle a été éprouvée. Et elle vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et cet élément-là est important aussi. Parce qu'on aime beaucoup penser que toutes nos souffrances vont nous servir à quelque chose. Ils ont un but, ils ont un sens qui vont inévitablement emmener quelque chose de plus grand ici sur la terre. Écoutez, c'est pas nécessairement pour ici. OK? C'est peut-être probablement beaucoup plus pour l'autre bord. Comprenez? Des fois, les souffrances que l'on vit ne font pas de sens dans le monde où ce qu'on est. N'en font tout simplement pas. Ça serait faux de dire que toutes les souffrances peuvent avoir un sens dans ce monde. Ça serait faux. Des fois, il n'en a tout simplement aucun. Mais est-ce que ça, dans ce monde, est-ce que ça veut dire qu'en final, ils n'ont aucun sens non plus? Absolument pas. Puis notre frère Jean vous a parlé des souffrances que les gens ne voient pas. Les souffrances qui sont personnelles, intimes, à l'intérieur de nous ou cachées, qui ne se vivent pas devant les autres. Regardez comment je souffre et comment je mets ma foi en Dieu. Regardez comment est-ce que je suis bon et glorieux. Je suis un bon chrétien, j'agis comme il faut. Ces souffrances-là sont beaucoup plus encourageantes et flatteuses pour l'être humain. Hein? Elles sont plus payantes. Je souffre, mais au moins, on m'admire à cause de ma souffrance. On met des mots sur, sur souvent ce qu'on se dit ou ce qu'on ne veut pas voir que notre cœur dit. Mais quand ces souffrances-là sont en secret, sont cachées ou ne sont pas devant les autres, on a souvent l'impression qu'elles sont vaines, qu'elles ne servent à rien. Mais encore là, c'est faux. Parce que le monde spirituel nous voit aussi. Dieu nous voit. Et ces souffrances-là ne passeront pas inaperçues. La façon dont on les vit ne passeront pas inaperçues le jour où ce que l'Éternel apparaîtra. Parce que lui voit tout. Il voit tout, tout, tout. Donc, peu importe la souffrance et sa provenance, elles sont toujours une opportunité de purification. Donc, Pierre compare les chrétiens à de l'or plein d'impureté. Notre foi en Dieu, contaminée par toutes sortes de virus, comme le confort, le pouvoir, la fierté, le plaisir, l'égoïsme. Elle est, pour une large part, plus abstraite et intellectuelle que sincère. Sur le plan intellectuel, nous croyons que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, mais nous nous basons sur le fait que nous nous en sortons bien. Parce qu'au fond de notre cœur, nous nous croyons plutôt droits, ouverts, travailleurs, remplis d'amour ou instruits que les autres. Notre caractère est rempli d'imperfections. Soit nous supportons mal les critiques, soit nous sommes trop durs en les faisant. Nous ne savons pas écouter l'autre. Nous sommes impatients envers ceux que nous qualifions d'idiots, de trop impulsifs, de trop timides ou de peu fiables, ou qui veulent tout contrôler. Par contre, nous nous voilons la face sur ces mêmes défauts qui entachent pourtant nos vies et blessent les autres. Ce paragraphe est tiré de la souffrance du livre de Timothy Keller. Puis la souffrance s'installe, timide et lâcheté, égoïste et pitié de soi, tendance à l'amertume et à la malhonnêteté. Toutes ces impuretés de l'âme sont révélées par l'épreuve et la souffrance qui les font remonter à la surface. De la même manière qu'une fournaise pour les impuretés d'un or non raffiné. Nous pouvons enfin voir qui nous sommes vraiment. Toutes ces choses-là sont révélées énormément dans les relations. Beaucoup dans les relations, mais aussi dans toutes sortes d'épreuves. On a tous encore besoin de cette purification-là. Notre réponse à tout ça. Quand on regarde dans 1 Pierre, on voit que Pierre exhorte ses lecteurs à ne pas être choqués par la souffrance et à ne pas perdre espoir. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous. Car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire. Encore là, notre réponse, ne soyez pas surpris de souffrir, c'est normal. Mais au contraire, soyez pleins d'espoir. Regardez à ce qui s'en vient. Puis voyez ça comme des opportunités. Non, pas prenez plaisir à souffrir, mais prenez plaisir dans le fruit que cette souffrance-là peut vous apporter dans votre vie. Et c'est difficile. Donc, si on évite constamment nos souffrances, est-ce que la souffrance va accomplir son but dans nos vies? Absolument pas. L'évitement n'est vraiment pas ce à quoi la parole de Dieu nous encourage. D'une certaine manière, le feu essaie de détruire le métal placé à son centre, mais au final, il ne le rend que plus beau et pur. Et on voit dans ça la souveraineté de Dieu. Parce que le mal a l'intention de nous détruire. Mais parce que Dieu est au contrôle de la souffrance et qu'ultimement, il est au contrôle de toute chose, il va prendre ce qui a une intention de départ mauvaise pour le tourner en quelque chose de bien. Comprenez? Et c'est là que la différence, elle est. La présence de Dieu, la souveraineté de Dieu permet ça. Dieu marche avec nous. Mais est-ce que nous, on marche avec lui? Notre réponse est importante. De s'approprier la personne de Dieu, de se rappeler qui il est, va faire toute la différence. Dans 1 Pierre 5, 10, il leur promet que quand ils auront souffert pour un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. Nous devons reconnaître Dieu, dépendre de lui, lui parler, croire en lui, quand nous sommes au milieu du feu. Dans Ésaïe 43, Dieu lui-même promet qu'il sera avec nous, qu'il marche à nos côtés dans le feu. Le connaître personnellement pendant nos malheurs est la clé qui nous renforcera au lieu de nous affaiblir. Il marche avec nous, marchons-nous avec lui. Si nous nous sommes taillés un Dieu sur mesure, quand tout s'écroulera, nous penserons qu'il nous a abandonnés et nous ne le chercherons pas. De marcher avec Dieu signifie de marcher avec Dieu, le vrai Dieu, et non avec le Dieu qu'on se construit nous-mêmes. On s'est entretenu là-dessus dans les dernières semaines. Hein? Brian, je pense que tu nous as parlé un peu de ça. Je n'ai pas encore entendu, je pense qu'elle n'a pas été enregistrée malheureusement. Mais c'était ça l'élément. Dieu est Dieu. Et Dieu, ce n'est pas notre partenaire dans notre plan. Quand que ça va bien, Dieu est notre partenaire. On n'a pas de problème avec lui. Mais quand que ça ne va plus bien, à cause de notre partenaire, on le vit comme une trahison. Dans notre conception de la personne de Dieu, il doit demeurer Dieu. Ses plans ne sont pas les nôtres. Et quand on diminue Dieu à nos plans à nous, un Dieu, on se construit notre propre Dieu. Et à ce moment-là, quand la souffrance arrive, quand l'adversité arrive, on ne peut pas faire autrement que de se sentir abandonné de lui. Et quand on se sent abandonné de Dieu ou trahi de Dieu dans la souffrance, dans l'adversité, parce qu'écoute, ça ne devait pas se produire comme ça. J'ai mené une bonne vie, je mérite mieux que ce qui m'arrive présentement. Tu comprends-tu? Je suis une bonne personne. J'ai mené une bonne vie, j'ai fait de mon mieux. Je ne mérite pas cette souffrance-là, Seigneur. Ça ne peut pas faire autrement que de créer la colère. Ou des fois, c'est l'inverse. Oui, Seigneur, je le mérite. Je sais, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas mené la vie que j'avais à mener. Je n'ai pas obéi quand j'ai été lâche, j'ai été paresseux. Seigneur, je mérite ce qui m'arrive. Je mérite ce malheur-là. Et là, on tombe dans la culpabilité. Et encore là, un côté comme de l'autre, on a oublié justement ce qu'on a dit tantôt, l'Évangile. Les souffrances qui nous arrivent ne sont pas des punitions. Ce n'est pas la colère de Dieu qui descend pour nous. Ce n'est pas la condamnation de Dieu. Tout ça, ça a été payé à la croix. Mais c'est plutôt des tentatives de nous détruire de l'ennemi et que Dieu va se servir de ces choses-là comme une opportunité pour nous purifier et nous faire grandir. Quand on voit ça comme ça, ça vient changer la perspective complètement de ce qu'on est en train de vivre. Et ça nous amène à marcher, à continuer de marcher avec Dieu. Quand on oublie réellement qui est Dieu, et quand on oublie l'Évangile, quand on oublie que Dieu, face à la souffrance, il n'est pas froid et insensible, quand on oublie que Jésus-Christ a laissé sa gloire au ciel, qu'il est descendu, il a mis les deux pieds dedans, On ne peut pas accuser Dieu d'être insensible, loin, puis de rien comprendre, puis de ne pas nous donner ce qu'on mérite. Il a tout mis de côté, ce que nous, on n'aurait jamais abandonné, et il s'est mis les deux pieds dedans. Et il a lui-même subi une fournaise beaucoup plus ardente que n'importe laquelle de celles que nous, on va endurer de notre vivant. N'importe laquelle, aussi grosse soit-elle. Et non seulement ça, cette fournaise-là qu'on aurait dû subir, il l'a pris à notre place. Ça change complètement la façon dont on va marcher dans notre souffrance. Complètement. Ce n'est pas abstrait ce que je vous parle ce matin. C'est concret. Et c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. Dans la souffrance, est-ce qu'on fait suffisamment confiance à Dieu pour éviter ces pièges-là? Est-ce qu'on fait suffisamment confiance à Dieu pour garder la foi et notre confiance en lui, peu importe ce qui nous arrive? C'est là qu'on voit où ce que tous ces concepts-là qu'on a parlé dans les dernières semaines ont une utilité concrète dans la façon dont nous allons traverser ce qu'on est appelé à vivre. Que ce soit petit ou que ce soit énorme. Mais on sait que l'Éternel, Dieu, n'est pas insensible à ce que l'on vit et il ne nous laisse pas seuls. Même si on a l'impression d'être abandonné de lui, parce qu'on a l'impression que c'est impossible de traverser ce qu'on traverse. Vous savez, j'ai lu un témoignage d'une personne qui est en train de... Il y a un de ses proches, je crois que c'était son épouse, qui est en train de mourir d'un cancer. Et il trouvait ça terrible de voir son épouse s'en aller comme ça, à petit feu. Puis il dit, « Seigneur, le jour où elle va s'en aller, je ne sais pas comment est-ce que je vais le supporter. » Puis il anticipait tellement ce moment-là qu'il en faisait de l'angoisse. Et il faisait tout en son pouvoir pour le retarder le plus possible. Et il mettait toute son énergie. On peut voir ça comme étant bien. Il veut que sa femme reste là le plus longtemps possible. Mais on peut voir ça comme étant une anxiété aussi qui est un signe de manque de foi. Parce que Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir la foi pour ce qui va arriver demain, même si tu l'anticipes. Et tu oublies que Dieu va te donner ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle à marcher et à traverser. Chaque jour suffit sa peine. Et quand on est devant des problèmes de même, on anticipe la fin et on se demande comment qu'on va faire. Bien, c'est normal. Dieu te donne la foi pour aujourd'hui. Quand le jour va venir, il va te donner ce qui est nécessaire pour ce jour-là. On oublie. On oublie ces choses-là. Oui, Jean-Claude. Moins le pourcentage de courage va être nécessaire.
Plus le pourcentage de foi va être élevé, parce que si la foi en Dieu qui est celui qui va te faire traverser l'épreuve est grande, ben, tu as moins besoin de courage, c'est pas trop.
Ah ben oui, c'est que oui, plus que tu as la foi, moins que ça dépend de toi.
Ben voilà.
C'est ça. Oui. Oui, plus moins ça dépend de toi, plus ça dépend de Dieu, et plus tu dépends de Dieu. Et dans la marche, il y a l'élément d'un pas, de quelque chose qui est continu, qui est constant et qui est répété. Quand on dit marcher avec Dieu, quand on dit marcher à travers l'épreuve, c'est une marche, c'est pas une course. Et ça demande la constance, ça demande la répétition et ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ça implique une progression. Et chaque pas est important et chaque pas te fait progresser. Marcher avec Dieu. Oui.
Plus, mais c'est la souffrance, c'est secret, c'est plus facile d'essayer de vivre toute seule. Puis des fois, j'aborde, des fois, je suis pas capable. Tu sais. Puis il faut impliquer d'autres gens. Il faut, parce que quand moi, j'ai pas le foi en Dieu, j'ai mon idée de qui Dieu est.
Oui. On a besoin de nos frères, nos sœurs pour nous ramener, pour avoir la foi que nous, on n'a pas dans ces moments difficiles-là. De s'entourer, c'est vraiment important. Oui, c'est un bon point. Puis dans les prochaines semaines, c'est des choses qu'on va voir aussi également parce que c'est un aspect. Ce matin, on voit l'élément de marcher avec Dieu quand on traverse l'épreuve, la différence que ça fait, l'impact que ça a dans quand on traverse. Mais dans les prochaines semaines, on va en regarder d'autres aussi, éléments essentiels pour réussir justement à traverser ces épreuves-là. Ce matin, la marche, de ne pas marcher seul, est important. Dieu nous a donné nos frères, nos sœurs également, pour nous supporter quand on n'est plus capable de marcher, pour qu'on continue de marcher quand même aussi. Vraiment important. Beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais jamais oublier l'Évangile est au cœur de ça. Si j'oublie l'Évangile, si j'oublie Jésus-Christ, je vais tomber seul dans ma souffrance. C'est comme si Dieu va m'avoir abandonné. Et c'est un mensonge. Dieu ne nous abandonne pas. Quand Dieu est avec nous, dans la souffrance, il arrive des moments où est-ce qu'on ne voit plus rien. La seule chose qui est devant nous, c'est notre souffrance. Et on tombe, c'est plus fort que nous, on est submergé. Et c'est là qu'on tombe dans la solitude et on oublie tout ce qu'il y a autour. Mais c'est important de ne jamais arrêter de marcher avec Dieu, de parler avec Dieu, de pleurer avec Dieu, de s'entourer des frères, des sœurs et de ne pas oublier que Dieu marche avec toi et qu'il sait de quoi il parle parce qu'il a lui-même marché à travers les fournaises et une encore pire que la tienne. Et ça crée une ouverture dans nos cœurs de se rappeler ces choses-là. Et quand l'ouverture est créée, la lumière réapparaît. La lumière revient graduellement au fur et à mesure que les journées avancent. Malgré la noirceur, malgré la solitude qu'on peut traverser dans ces moments difficiles-là, de ne jamais arrêter de marcher, de jamais arrêter de marcher avec Dieu, peu importe l'état dans lequel on se trouve. Et il va y avoir des rayons de lumière qui vont traverser, des lumières, des rayons de chaleur qui vont faire en sorte que jour après jour, notre situation va s'améliorer. C'est pas facile, je le sais, mais c'est quand même ça. On peut pas se le dire autrement. C'est quand même ça, pareil. Aussi difficile que ce soit, c'est la vérité. Et de se rappeler l'Évangile, et c'est ce qu'on va faire en partageant le repas du Seigneur dans les minutes qui suivent. Je vous invite à sortir les éléments pour ceux qui l'ont pris, qui les ont emportés. De se rappeler que c'est justement à la croix que Jésus-Christ a vécu la pire fournaise possible dans toute l'histoire de l'humanité. Et il l'a fait pour nous sauver, pour qu'on puisse justement avoir Dieu qui marche à nos côtés, pour qu'on puisse avoir l'Esprit en nous, avec nous, à chaque instant, qui nous partage les pensées de Dieu, qui nous rappelle la présence de Dieu, qui nous rappelle l'amour de Dieu, que ce soit dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de souffrance. Prenons un temps dans la prière. Je vous laisse le temps de prier si vous avez à cœur de le faire.
Me remémorer dans le passage dans Genèse quand Enoch marcha avec Dieu et fut en lui. Actuellement, notre espérance, on sait que tu viens nous chercher. C'est un encouragement de marcher avec toi parce qu'on va être en ta présence. Ce matin, avec ces éléments qui nous rappellent Jésus, qui nous rappelle ses souffrances, qui nous rappelle aussi la vie qu'il nous donne, qu'il nous a donnée. Parce que par sa mort, il nous a donné la vie. Merci Seigneur qu'on puisse se remémorer par ce cérémonial que nous sommes en vie.
Seigneur Jésus, merci d'avoir été obéissant, d'avoir fait confiance à ton Père céleste. Tu ne voulais pas de cette coupe, mais tu l'as prise et tu l'as bu jusqu'au bout. Et comme mon frère Charles disait, Seigneur, c'est ce qui permet qu'on soit en intimité avec le Père à l'heure actuelle. Père, on lit dans ta parole, heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de pleurs, ils le transforment en un lieu plein de sources. Et Seigneur, c'est ça qu'on veut ce matin, on veut s'appuyer sur toi, on veut marcher en intimité avec toi comme Jésus l'a fait. On veut dépendre de toi à travers nos différentes souffrances, Seigneur. Merci que tu nous vois. Tu connais nos cœurs. Tu as compassion de nous. Et tu nous bénis. En bout de ligne, tu nous bénis. Merci, Seigneur. Sois loué, sois adoré ce matin.
Oui, gloire à toi, Seigneur. Quel privilège de te connaître, Seigneur Jésus, de comprendre ces vérités, Père éternel, qui qui nous change, Seigneur, profondément. Dans notre perspective de la souffrance, dans la perspective de son rôle dans chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Père éternel, on veut te demander ce matin de venir nous montrer dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, Père éternel, ces souffrances que l'on évite, Père éternel, que l'on retarde, que l'on fuit, Seigneur Jésus. Et en même temps, Père éternel, en les fuyant, on s'empêche, Père éternel, de grandir dans notre foi, de te laisser, Seigneur Jésus, purifier notre foi. On empêche ces épreuves, Père, d'accomplir ce pourquoi, Seigneur Jésus, tu les as placées dans notre vie. Pardon, Seigneur Jésus, de te résister, de manquer de courage, de chercher notre confort, Père éternel, au lieu de chercher à s'appuyer sur toi davantage, Père éternel. On a trop confiance en nos propres forces, nos propres moyens, Seigneur Jésus. Trop souvent, on ne voit pas la nécessité, Père éternel, d'être purifié davantage. Seigneur, ce que tu as accompli à la croix pour chacun de nous nous rappelle, Père éternel, que nos vies ne nous appartiennent pas, que nous sommes, Seigneur Jésus, tes enfants. De toi, Seigneur Jésus, qui es un Dieu pur et parfait, trois fois saint. Et que, Père éternel, à travers ces épreuves, Seigneur, on proclame tes vertus également à tous ceux qui nous entourent. Que, Seigneur, notre marche, notre sanctification, Seigneur Jésus, te glorifie. Et Seigneur, quand Jésus est allé à la croix, il t'a glorifié. Il a élevé ton nom. Il a démontré, Seigneur Jésus, pour toute l'éternité, l'ampleur, la grandeur, Seigneur Jésus, de ton amour et de ta puissance, de ta souveraineté sur la mort. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi. Nous désirons que nos vies, Seigneur Jésus, te louent. Que nos vies, Seigneur Jésus, t'appartiennent. Viens faire cette œuvre dans chacune de nos vies. Viens, Seigneur Jésus, nous donner la foi nécessaire et la purifier, Seigneur Jésus, pour la journée qui est devant nous. Et on sait, Seigneur Jésus, que tu renouvelles tes grâces chaque jour que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de ta fidélité, de ta bonté, de ta patience, de ta douceur envers chacun de nous. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne, Seigneur Jésus, qu'on se rassemble ensemble, Père, qu'on élève nos voix, nos mains, nos cœurs devant toi, Père, et qu'on te célèbre, qu'on te loue. Merci pour ces éléments qui nous rappellent la grandeur de ton œuvre, qui nous rappelle, Seigneur, la grandeur de ta personne. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'on te prie. Amen. On peut prendre les éléments.